J'aimerais avoir quelques précisions sur ce qui suit. Tout d'abord, pour ce qui est donc des journalistes, je comprends bien ce que vous nous dites, que la loi s'applique de la même façon pour tout le monde et que vous ne ciblez pas certaines professions plus que d'autres. Mais d'après ce que nous savons, ce sont les informations qu'on a pu consulter, eh bien, des journalistes, notamment les journalistes de grands médias internationaux, se sont vus refuser l'accès sur le territoire de Macao. Alors, vous nous avez répondu, certes, nous disons que ça n'avait absolument rien à voir avec la liberté de la presse, que ça relevait de questions ayant trait à la sécurité et qu'en vertu de la législation interne, eh bien, voilà, vos agents de l'immigration peuvent déterminer qui entre sur le territoire et qui n'y rentre pas. Mais ça, vous n'avez pas l'apanage, hein, ça se fait dans tous les pays du monde. Mais sur la base de quels critères refusez-vous donc l'entrée sur le territoire de certaines personnes? J'ai cru comprendre que l'État avait quand même voix au chapitre. Donc je répète ma question. Sur la base de quels éléments de preuve avez-vous estimé que certains journalistes appartenant à des médias indépendants ou à des médias internationaux qui ont le bras long, hein, le New York Times et autres, sur la base de quels critères leur avez-vous refusé l'accès sur le territoire de Macao? Comment saviez-vous qu'il constituait une menace pour la sécurité de votre région administrative spéciale? Je crois comprendre que la législation régissant la tenue d'un référendum n'existe pas en fait. Il n'y a pas de loi en tant que telle. Alors, quelle est la base légale à laquelle vous avez eu recours pour refuser, et ce pour bon, des raisons éminemment politiques, semble-t-il, la tenue du référendum en question? Justement, dans l'affaire 100-2014, eh bien, le tribunal aurait quand même établi que, selon lui, le référendum était simplement une espèce de sondage. Aujourd'hui, vous nous avez dit que le référendum, selon vous et selon la législation interne, pourrait mettre à mal le droit d'autrui. Alors, si, selon vous, et là je reprends les propos du juge, selon le juge, le référendum est un simple sondage, une simple enquête, comment peut-il mettre à mal le droit d'autrui? Je pose la question parce que, d'après ce que vous nous dites, la loi fondamentale et le pacte prévoient donc le droit à la liberté d'expression et dans laquelle on n'est pas censé faire ingérence. Alors j'ai cru comprendre que le professeur Cho était employé par une université publique, donc une université financée par l'État, une institution de l'État, semble-t-il. Donc on peut imaginer qu'elle relève de la loi fondamentale et donc de tous les droits et de toutes les libertés qui sont prévues par la même loi. Là encore, je vous pose la question, comment se fait-il que le gouvernement de Macao RAS ait une toute autre approche dans ce contexte et détermine, comme bon lui semble, qui il peut mettre à pied ou renvoyer sans autre forme de procès? Ça, c'est pas du tout conforme aux dispositions de notre pacte. Et puis, vous nous dites qu'évidemment, en cas de désaccord, si on estime avoir été lésé, on peut se saisir de la justice, mais d'après ce que je sais, aucun de ces deux professeurs n'a obtenu de recours. Pourtant, pour l'un d'entre eux, on a établi qu'il avait été mis à pied pour ses opinions politiques. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est connaître, ce sont les circonstances exactement de ces affaires, et notamment le caractère temporel de tout cela. Comment est-ce que vous garantissez l'exercice des droits et des libertés fondamentales? Pourquoi est-ce que vous avez mis autant de temps à décider d'émettre de leur fonction ces professeurs alors qu'ils travaillaient dans une université d'État? J'avoue que je saisis mal. Merci.
Thank you very much.
Je vous remercie, chers collègues. Personne d'autre ne demande la parole parmi les collègues. Je vous propose